Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À 2 heures en voiture de Toulouse, au bout d'une route à flanc des monts de la Cône, cachée dans l'une des vallées, se trouve Pratelon. Pratelon, le lieu où vit le père Daniel Ange depuis 30 ans, la plupart du temps dans un ermitage. Ancien moine, puis ermite, le père Daniel Ange est le fondateur de Jeunesse Lumière, une école internationale d'évangélisation. Pour ce carême, nous avons choisi d'aller interroger ce grand spirituel sur les trois piliers de ce temps de Pâques, la prière, le jeûne et l'aumône. Première émission ce matin, la prière. Père Daniel Ange, bonjour.
Bonjour, cher Emmanuel et tous les auditeurs.
Merci de nous accueillir ici à Pratelon. Alors peut-être on peut commencer
avec joie
par décrire, on va mettre des photos sur internet parce que c'est un peu improbable comme studio de radio. Ici on est dans une chapelle, donc dans les monts de la Cône. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est en fait tout simplement?
Alors nous sommes dans une des 3-4 chapelles de l'école, qui est une chapelle byzantine de rite oriental, puisque comme vous savez, un grand nombre de chrétiens ne sont pas de rite latin ou romain, et qu'ils soient catholiques, orthodoxes, ont un rite oriental. Et comme nous avons régulièrement des jeunes qui viennent de Russie, du Liban, de Roumanie, nous avons tenu à avoir une chapelle qui soit dans le style spécifique.
Donc là, on a mis une table, on a installé 2 chaises, et donc on fait face au tabernacle. Enfin, vous tournez le dos, moi je fais face. Et là, donc on est à Pratelon.
Oui.
Peut-être dire d'un mot ce lieu, en fait, c'est un ancien séminaire perdu dans la montagne.
Voilà, qui était à l'abandon, et l'archevêque d'Albi nous a supplié de venir le reprendre en main. Nous avons été très heureux, ça répond très, très justement à ce qu'on attendait d'une maison d'où on part et on vient en mission. Voilà, en ce moment, tous les jeunes, les 33 jeunes de cette promotion sont tous en mission dans différents diocèses, villes et villages de France. Voilà, et donc nous en profitons pour faire cette émission sur la prière.
Voilà, dans une grande maison, donc calme.
Voilà.
Je dis juste quelques mots pour finir de situer. Donc on est dans le diocèse d'Albi. Voilà, ici, donc, c'est une école internationale d'évangélisation, fondée donc depuis maintenant un peu plus de 30 ans,
voilà.
Dans laquelle des jeunes de France et du monde entier viennent chaque année donner une année,
voilà.
Quoi, pour se former en fait à la vie chrétienne ou...
Et justement, avant tout, pour découvrir les splendeurs d'une vie de prière, justement. Parce que la vie de prière, c'est vraiment notre respiration vitale sans laquelle notre âme étouffe. Je me souviens d'un universitaire de Québec qui me disait mes parents, mes profs de catéchèse m'ont jamais parlé de prière, m'ont parlé de tout sauf de cela. Et vous vous surprenez à ce que maintenant je fasse des spasmes. Voilà, comme quelqu'un qui étouffe ou qui est noyé. Et un autre mot qui m'a beaucoup frappé, c'est dans une léproserie au Cameroun, un petit lépreux de 12-14 ans qui me dit « Tu sais pas, ce qui rend malheureux, c'est pas d'être lépreux, c'est de ne pas savoir prier. » Voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc c'est vraiment notre âme qui respire, et si possible à 2 poumons pour être en pleine santé. Voilà.
Alors justement, donc lançons-nous sur la prière. Donc premier thème de cette émission, c'est donc un des piliers du carême.
Oui,
pendant le carême, on est invité particulièrement donc à prier.
Absolument.
Nous les chrétiens. Certains en fait n'ont peut-être jamais commencé à réellement prier, ou alors de temps en temps en allumant une bougie. Ou
voilà.
La première chose, ça serait qu'est-ce que vous diriez à nous tous pour nous aider à nous mettre en chemin. Pourquoi en fait prier?
Voilà. Alors, pour éclairer les choses, il faut dire qu'il y a grosso modo 2 grandes formes de prière, toutes les deux essentielles, je dirais, pour notre âme. C'est d'abord ce qu'on appelle la prière liturgique, la prière de toute l'Église, qui correspond aux différentes heures de la journée, les laudes au lever du jour, les vêpres au coucher du soleil. Ce n'est pas du tout réservé aux prêtres. Il existe justement des livres de prière qui nous permettent d'être harmonisés intérieurement avec tous ceux qui prient cette prière dans le monde entier, et entre autres qui fait la connexion, je dirais, entre la terre et le ciel. Et parce que à ce moment-là, surtout quand nous chantons la liturgie, nous sommes vraiment avec les anges déjà au ciel. La liturgie épouse toutes les saisons de l'année. On y suit toute la vie de Jésus. Donc la liturgie n'est jamais la même tout au long de l'année. Depuis avant Noël jusqu'à la Pentecôte, nous suivons pas à pas Jésus. Et c'est lui qui vient prier en nous, c'est toute l'Église et qui prie en nous. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui est la prière intime, personnelle, on pourrait dire la prière du cœur, qu'on appelle de manière un peu technique l'oraison, mais qui recouvre pas mal de choses différentes. On va y revenir.
Alors, on y reviendra, mais juste une chose, si je comprends bien de ce que vous commencez par nous dire.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, la prière, en fait, c'est essentiel. Et pourquoi prier? C'est quoi? C'est pour apprendre à se décentrer de soi-même et à entrer en fait, dans la vie de Dieu, c'est ça?
Entrer dans une relation intime et personnelle avec la personne de Dieu. Et pour les chrétiens, parce que la prière vaut dans toutes les religions, et pour les chrétiens, c'est spécialement une intimité avec la personne de Jésus vivant maintenant. Et donc, ça ouvre notre vie, ça, c'est extraordinaire, ça nous donne cette relation, justement, avec la gloire du ciel. Voilà. Et dans un monde où on étouffe, où on vit à ras de trottoir, c'est tout à coup comme un grand ciel qui s'ouvre avec toutes ces galaxies. Ça donne une toute autre dimension à notre existence.
Alors, vous avez cité ces deux exemples en début d'émission.
Oui.
Est-ce que les jeunes qui viennent ici, et puis on ne sait pas, donc justement, je le dis, vous faites des apostolats aussi, vous avez des temps d'apostolat,
tout à fait.
Peu partout en France, voire dans le monde.
Tout à fait.
Qu'est-ce que disent les jeunes, ou d'autres, des jeunes ici ou ailleurs,
quand
vous les introduisez à la vie de prière? Est-ce que pour
Alors, je tâche de les introduire d'abord à la vie d'oraison, c'est-à-dire la prière intime du cœur. Parce que la liturgie elle-même, auquel j'ai fait allusion, il faut que notre cœur y participe, toute notre âme. Ce n'est pas juste des mots, sinon ça devient du blablabla. Ça doit partir du cœur. Et alors, je pars de ce principe absolu, c'est que pour les baptisés, depuis leur baptême, ils sont habités, nous sommes habités par la Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit. Et le Fils, Jésus, est sans cesse en train de prier au fond de mon âme, soit en train d'intercéder, soit de louer, tout le temps, que j'y pense ou que je n'y pense pas.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est que par notre baptême, Jésus est présent au fond de notre âme.
Exactement, mais il n'est pas présent statiquement. Tous les trois continuent à mener leur vie familiale, si j'oserais dire, leur vie communautaire. Et donc, il y a cet élan incessant du Fils vers son Père auquel il veut m'associer. Je prends deux comparaisons toutes simples. C'est quand dans une ville, quand tu veux étudier, la rue fait beaucoup de bruit, donc pour couvrir un peu ce bruit, tu mets une petite musique de fond, une petite musique classique douce. Ça ne veut pas dire que tu fais tout le temps attention à chaque note, mais tout en travaillant ton devoir de géographie ou en faisant ta cuisine, peu importe, de temps en temps, tu réalises « Ah, ça c'est l'adagio d'Albinoni » et tu écoutes quelques instants. Mais pendant que tu n'écoutes plus, que tu continues ton boulot, la musique continue, tu vois. Ou bien ma petite rivière près de l'Ermitage, je l'entends surtout la nuit, mais je ne passe pas tout mon temps à l'écouter. Mais cette petite musique, je l'écoute de temps en temps. Et donc ça veut dire même quand on ne fait aucune attention à la prière, même quand on ne prie pas explicitement, la prière te précède, elle t'habite. C'est déjà Jésus qui prie en toi. Si tu conduis un camion bruyant le long d'une rivière, le bruit t'empêche d'écouter. Mais si tu arrêtes le camion de temps en temps, que tu éteins le moteur, tu entends cette musique de la rivière. Et prendre des temps de prière chaque jour, si possible, même quand on est débordé de travail, on peut essayer de prendre au moins 5-10 minutes de prière le matin ou le soir avant de se coucher. Et à ces moments-là, si tu veux, tu prends conscience, tu t'unis à cette prière de Jésus au fond de ton âme. Alors il y a beaucoup de petits trucs qui aident beaucoup.
On va y revenir aux petits trucs. En tout cas, jeunes qui arrivent ici, parfois, c'est une découverte complète, justement.
Oui,
bruit du ruisseau au fond de leur cœur, justement.
Oui, alors certains avaient déjà une vie de prière avant de venir, bien sûr. D'ailleurs, pour venir ici, il faut déjà avoir une certaine qualité de relation avec le Seigneur. C'est vraiment pour lui qu'ils viennent ici, voilà. Mais pour d'autres, effectivement, c'est vraiment une découverte, surtout la liturgie qu'ils n'ont jamais célébrée avant. Et puis, cette prière du cœur, surtout, qu'ils pratiquent surtout chaque matin, il y a une demi-heure de prière silencieuse, et puis toute la journée du vendredi. Chaque vendredi, c'est une journée de désert, comme nous disons, et donc ils sont libres de partir dans la montagne, de prier dans la nature. La nature est une énorme aide pour la prière, parce que tout nous parle de la gloire de Dieu. C'est la première parole de Dieu, bien avant la Bible, c'est la création. Donc c'est un endroit merveilleux pour louer le Seigneur. Voilà.
Alors, avant qu'on vienne, c'est promis, on va y arriver, vous inquiétez pas, à la méthode.
Oui.
Pour finir de motiver nos auditeurs peut-être à prendre ce temps de prière personnelle chaque jour, si vous deviez dire un avant et un après À quoi peut ressembler en fait la différence entre une vie où on ne priait pas
oui.
et une vie, si on prend cette habitude, au bout de 5, 10 ans, à quoi va ressembler ma vie ?
Eh bien, je pense que ça ressemble à un paysage en novembre, dans le brouillard, le froid, et le même paysage, les mêmes arbres, les mêmes collines, un beau matin de mai, plein d'oiseaux et de soleil. Voilà. Donc, le paysage, c'est-à-dire que la texture de notre vie normale demeure la même, c'est les mêmes études, le même boulot, la même maison que j'habite, mais tout est comme illuminé, et illuminé de l'intérieur. Et la prière a comme fruit tellement merveilleux la paix du cœur. Dans un monde où on est tellement stressé, si facilement inquiet, angoissé, où on est pris par toutes sortes de choses, ça met comme un grand calme, comme une tempête qui s'apaise. Jésus apaise la tempête du cœur et nous nous retrouvons très paisibles. Et dans les moments de souffrance, d'épreuve, de douleur, la prière apporte une incroyable consolation. Parce que vraiment, comme on est uni à Jésus, eh bien, avec lui, en lui, eh bien, nous pouvons offrir toutes ces épreuves pour, par exemple, la paix du monde, pour régler les tas de problèmes du monde. Il y a cette certitude absolue que notre prière a une vraie puissance sur le cœur de Dieu, même sur les événements du monde. Vous voyez ?
Alors, lançons-nous. On imagine que nos auditeurs, en tout cas, moi je le suis convaincu, donc qu'il faut se lancer dans une prière.
Oui.
Donc, vous disiez, il y a la liturgie et l'oraison. Peut-être, comment est-ce qu'on s'y prend, Père Daniel Ange,
voilà.
si on veut, on peut imaginer qu'on va à la messe de temps en temps, au moins,
oui.
au minima. Quelles seraient les premières étapes ? Comment commencer cette vie de prière ?
Alors, moi j'ai un petit truc tout simple qui m'aide énormément, mais qu'on n'est pas forcé de prendre. C'est à chacun de trouver ce qui peut l'aider le plus. C'est ce qu'on appelle la prière du nom de Jésus. Alors, c'est une très ancienne tradition, surtout orientale, dans les milieux monastiques. Il y a une formule qui est devenue classique. « Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Mais pour moi, c'est beaucoup trop long, un peu compliqué. Et donc, je la simplifie beaucoup. Alors, je fais comme ceci. Quand j'ai, par exemple, une heure de prière devant moi, une journée de désert, ou bien que je vais prendre une heure de prière en marchant. Bon, pendant les 5 premières minutes, je vais juste dire sur l'inspiration Marie, sur l'expiration Jésus. Que ce soit Marie qui m'aide à prier Jésus, à prier avec elle. Après 5 minutes, Marie disparaît gentiment à l'ombre et je dis, mais avec elle, des toutes petites formules, très brèves, mais répétées longuement. Jésus, mon amour, Jésus, mon amour, Jésus, mon amour, Jésus, ma joie, Jésus, ma vie, Jésus, tu es beau, Jésus, tu es beau, Jésus, miséricorde, peu importe. Pas plus que de 2, 3, 4 mots pour que ça puisse être dit très facilement et rapidement, mais répétées chacune 20, 100 fois, 200 fois, qu'on compte ou pas, ça n'a pas d'importance, voilà. Et après cette partie-là, pendant disons 20 minutes, après je me tourne directement vers le Père. C'est Jésus en moi qui prie son Père. Ah, je vais dire Père merci, Père miséricorde, Père etc. Et après trois quarts d'heure comme ça, eh bien c'est l'intercession. Jusque-là c'est la gratuité, c'est une sorte de louange toute gratuite. Et quand je prie, par exemple, pour les peuples, j'aime beaucoup prier pour les pays, les nations, eh bien, je vais dire Jésus Liban, Jésus Liban, Jésus Syrie, Jésus Irak, Jésus Nigeria, Jésus Soudan, Jésus Érythrée, Jésus Pakistan, surtout les pays où il y a le plus de souffrance, de persécution, etc. Je me souviens, Haïti, en plein état de guerre, couvre-feu et tout, procession dans les rues, et les Haïtiennes cherchaient à s'emparer de l'ostensoir. Elles criaient toutes, Jésus, Haïti, Jésus, Haïti. Elles n'avaient qu'un mot, voilà. Je n'ai pas besoin d'expliquer à Jésus tous les problèmes politiques, économiques du pays. Le mot lui rappelle. Alors je dis, pas, voilà, Jésus Liban pendant une demi-heure. Peut-être pas une demi-heure, mais disons 5 minutes. Et puis quand je vais prier pour les personnes, par exemple pour toi Emmanuel, je vais dire Jésus Emmanuel, Jésus Emmanuel. Et après 5 minutes, Jésus me fait comprendre, d'accord, il s'occupe de toi. Donc je passe à un autre, Jésus Sylvie, Jésus Sylvie. Alors c'est une petite prière
C'est une petite prière toute simple, mais pardon, je vous arrête. Parce
très
que,
facile.
Très facile, mais
oui.
Comment dire, vous, déjà là, ça fait une heure, à bien vous comprendre.
Oui, oui.
Alors, mettez-vous à la place de ceux qui commencent tout à fait.
Voilà, qui commencent.
Qu'est-ce que je fais en fait ? Je me mets dans un coin, dans ma
truc.
Chambre,
oui.
J'allume une bougie et pendant 5 minutes, je dis juste Jésus, Marie,
ben voilà.
Jésus, Marie, c'est tout ?
Oui, ou
je
bien.
Je commence par ça, je fais ça tous les jours.
Simplement, le seul nom de Jésus, mais très doucement, calmement, en prenant une belle attitude du corps. Le corps doit prier avec nous. C'est très important, l'attitude physique. On y reviendra. Simplement dire Jésus, Jésus, Jésus. C'est une extraordinaire. Parce que le nom, c'est la présence. Quand tu dis ça avec un peu d'amour, eh bien, il y a une véritable... Jésus se rend présent. Parce que tu l'appelles par son prénom, en plus, avec beaucoup d'amour.
Donc, je prends un temps, même petit,
voilà.
Et j'invoque le nom de Dieu, en l'occurrence oui. Le nom de Jésus, pour me mettre en sa présence.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres fondamentaux avant qu'on fasse une première
oui.
pause musicale?
Alors, une autre chose qui peut beaucoup aider, par exemple...
Il faut essayer de faire ça peut-être au calme aussi, chez soi.
Mais par exemple, ton petit temps de prière le matin, tu peux aussi dire, tout simplement, « Seigneur, je t'offre toute cette journée qui vient, avec toutes ces inconnues, ces imprévus. Je t'offre d'avance tout ce qui pourrait être difficile ou douloureux en ce jour, et je te remercie d'avance pour tous les moments de bonheur et de joie que tu pourras me donner. Je te confie chaque personne que je vais rencontrer. » Et le soir, en te couchant, tu remercies le Seigneur pour la journée passée, tu lui demandes pardon si tu lui as fait de la peine ou que tu as pu faire de la peine à d'autres personnes, tu demandes ton pardon et tu lui confies la nuit qui vient. Donc, c'est le meilleur des somnifères, tu t'endors le cœur en paix. C'est des trucs très très simples que tout le monde peut faire et vivre. Et c'est en pratiquant la prière, en faisant l'expérience plutôt, que peu à peu le goût en vient, le bonheur en vient, parce qu'on goûte à cette douceur de cette relation intime avec le Seigneur.
Peut-être, avant qu'on fasse cette première pause musicale, oui. Faut-il ajouter quand même la présence de la parole de Dieu?
Ah, ça fait partie et des petits trucs dont je voudrais parler.
Même au commencement, peut-être, même quand
Absolument.
On débute, non, il faut penser...
Absolument.
Alors, dites-en un mot et puis après on va faire cette pause.
Oui, c'est... alors, une chose qui aide beaucoup la parole de Dieu, c'est de prendre carrément l'Évangile. Ne pas se perdre dans des généalogies sans fin du livre des Nombres et tout ça. Donc, tu prends l'Évangile, tu prends une scène d'Évangile et tu la lis doucement. Tu peux t'arrêter à un verset, tu n'as pas besoin de tout lire, mais tu mets au présent, comme l'évangile de Marc. Il ne dit pas au passé, Jésus était monté dans la barque, Jésus monte dans la barque, il s'endort, etc. Tu dis au présent et tu le transformes en prière, c'est-à-dire au lieu de dire à la troisième personne, Jésus s'est assis au bord du puits, il était midi, une femme arrive, etc., tu dis « tu ». Tu es fatigué de la route, tu t'assois au bord du puits, une femme de Samarie arrive, tu lui demandes de moi à boire. Et donc le texte se transforme en prière. Ça, c'est extraordinaire, c'est une aide extraordinaire. Tu reconstitues avec ton imagination la scène, surtout quand notre pensée est remplie d'autres images. Tu les remplaces par une image, une scène biblique. Il y a des beaux livres, de belles images qui nous aident à ça. Et vraiment, tu revis la scène avec Jésus. Ça se passe en ce moment. Ce n'est plus la Samaritaine, mais c'est toi. Ce n'est plus un apôtre qui crie « Seigneur, sauve-nous, la tempête, etc. » C'est toi qui crie à Jésus. Voilà, mettre au présent et à la deuxième personne. Et ça, ça change tout. Et souvent, après deux, trois lignes, ça suffit, t'es parti. C'est comme une petite... comment est-ce qu'on pourrait dire, pour lancer la prière.
Voilà, merci beaucoup Père Daniel. Je vais faire une première pause musicale. Je rappelle que nous sommes en direct donc de Pratelon. Donc Pratelon, c'est dans les monts de la Cône, donc dans le diocèse d'Albi où se trouve donc votre ermitage et cette école Jeunesse Lumière. Merci beaucoup de nous accorder du temps ce matin. On fait cette première pause musicale et puis on vous retrouve pour avancer dans cette première émission de conseils à l'occasion du carême sur le thème de la prière.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, cette émission Vivante Église, donc depuis Pratelon, donc dans le diocèse d'Albi, dans les monts de la Cône, où se trouve le père Daniel Ange. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que le père Daniel Ange est un ancien moine, puis a été ermite et fondateur d'une école d'évangélisation qui s'appelle Jeunesse Lumière, où viennent chaque année, depuis maintenant 33 ans, des jeunes de France et d'un peu partout dans le monde, pour une année, on va dire, fondatrice dans leur vie de foi. Et nous sommes avec le père Daniel Ange pour ce carême, afin qu'il nous aide, lui qui a une longue expérience de la vie chrétienne et de la vie de prière, qui nous aide à comprendre et à nous introduire dans ces trois piliers que sont la prière, le jeûne et l'aumône à l'occasion de ce carême auquel l'Église nous invite. Alors on a vu dans la première partie, père Daniel Ange, un petit peu quelle pouvait être la vie avant et après. Vous preniez l'exemple de ce paysage en disant quand on prie pas, c'est comme un paysage presque là, le paysage qui est dehors, c'est-à-dire il y a du brouillard, on sait pas trop où on est, etc. Et puis quand on prie, vous dites qu'un jour ça peut devenir comme un grand ciel bleu dans lequel on entend les oiseaux et autres. Et vous nous avez donné quelques astuces. Ce que j'aimerais dans cette deuxième partie essentiellement, c'est que vous nous fassiez entrevoir en fait ce qu'on va vivre quand on commence cette vie de prière, ou quand on en a l'habitude. Alors la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce qu'il faut avoir peur en fait de se lancer dans cette vie de prière? Parce que parfois on se dit que la vie de prière est réservée aux moines, aux prêtres, et que soi-même, en fait, on se dit si on fait un pas vers Dieu trop important, qu'est-ce que Dieu va me demander? Qu'est-ce que vous diriez à tous ces gens qui ont peut-être peur de se lancer dans la vie de prière à cause de ça?
Eh bien, on ne peut pas avoir peur de son bonheur. La prière, c'est d'avoir un bonheur fou, un bonheur extraordinaire, d'avoir cette relation avec le ciel, avec l'au-delà, avec la personne même de Dieu. Ça décuple notre joie de vivre, j'aurais dit. Vous voyez, donc c'est de l'ordre du bonheur. On ne peut pas avoir peur de Dieu qui, lui, ne veut qu'une seule chose pour nous, notre bonheur. C'est pour ça qu'il nous a créé la grande hymne, le cantique, l'oratorio que Jésus a composé tout à fait au début de sa vie missionnaire. C'est cet hymne au bonheur. Oui, un seul mot, un seul refrain, bonheur, 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 bonheur. Il donne toutes les pistes du bonheur. Donc on ne va pas avoir peur de notre bonheur.
Vous parlez de quel oratorio? C'est quel passage en fait dans les Écritures?
Ce qu'on appelle les béatitudes. Matthieu chapitre 5, c'est une hymne, n'est-ce pas? Avec 8 strophes et un refrain. Et le refrain, c'est juste bonheur, bonheur, bonheur. Voilà. Et donc, comment avoir peur d'un Dieu qui n'est que tendresse, qui n'est que cœur, qui veut toujours le meilleur pour nous, qui nous a créés pour un bonheur d'éternité, pour être heureux avec lui dans toute l'éternité au-delà de la mort? Comment avoir peur de lui? Je veux dire, c'est comme un fiancé qui aurait peur de sa fiancée. Il y aurait quelque chose de bizarre dans leur relation, vous comprenez? Comme un jeune marié qui aurait peur de sa jeune épouse, tu vois? Comment avoir peur? Comment est-ce qu'un petit enfant peut avoir peur de sa maman qui le cajole, qui le berce, qui le nourrit de son lait? L'enfant n'a pas peur de sa maman, normalement. Et donc, je pense qu'au contraire, c'est ce qui apaise toutes nos peurs, et que c'est sans Dieu que nous avons peur de tout, de l'avenir, de nos proches, de nous-mêmes, des autres. Et la peur s'infiltre quand il n'y a pas cette confiance, cet abandon du petit enfant dans les bras de son papa.
Alors, on vous croit sur parole, on va dire.
Oui, alors je voudrais vous donner une petite histoire qui éclaire ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était à Montréal, au Canada, il y avait un incendie d'un building, et il y avait une petite fille de 5 ans, Vanessa, qui est toute seule au troisième étage, ses parents étant partis au marché. Quand ils reviennent du marché, tout l'escalier de bois a déjà brûlé, et les pompiers sont en train d'arriver, et le papa crie à la petite fille, « Vanessa, jette-toi par la fenêtre, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » Elle dit, « Mais où es-tu, papa? Je ne te vois pas. » Parce qu'il y a un gros fumée noire, elle ne voit plus rien. Finalement, elle prend son courage à deux mains, et elle se jette dans le vide, et elle tombe dans un super matelas tenu par 4 pompiers qui guettaient sa chute, et de là, elle rebondit dans les bras de son papa. C'est ce qu'on appelle la confiance, même quand nous ne voyons pas Dieu, que nous ne sentons pas dans notre sensibilité sa présence, nous faisons ce saut dans le vide, c'est-à-dire ce saut dans la confiance, voilà, sûr de tomber dans ses bras. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a échappé à la mort. Et voilà, parce qu'elle a eu ce courage ou cette confiance dans la parole de son papa. Voilà, elle n'a pas dit « tu mens, tu me joues un tour, je vais me fracasser par terre ». Non, elle fait confiance à sa parole. Voilà.
Donc cette première réserve levée, qui est quand même très importante, qu'est-ce que vous diriez, en fait, quand on se lance dans la vie de prière, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ce saut dans le vide que vous décrivez, ou est-ce qu'on va, quand on commence une vie de prière, est-ce qu'on va forcément éprouver la tendresse de ce Père que vous décrivez dans cette image ?
Très, très, très bonne question. Alors là, ce qui aide beaucoup à l'éprouver, ou du moins à le provoquer, à nous manifester sa tendresse, sa douceur, c'est une forme de prière, une des avenues de la prière, aussi bien en liturgie avec la prière de l'Église qu'en oraison personnelle, c'est la louange gratuite. Voilà. Seigneur, merci d'être Seigneur. Dieu est Dieu. Merci d'être Dieu. Merci d'exister. Merci pour ton amour. Merci pour ton cœur. Voilà, on ne demande rien. Souvent, les gens réduisent la prière uniquement à la prière de demande, ce qui est important, bien sûr. Mais c'est comme un enfant qui ne ferait jamais que demander des trucs à ses parents, toujours demander, fais-moi tel cadeau, sans jamais faire un bon petit câlin, un bon petit bisou gratuit. Voilà, je crois que cette gratuité de la prière est très importante. Voilà, cette louange.
Et pourquoi elle est si importante que ça, en fait ? Elle nous introduit à quoi, en fait ?
Parce que ça met une relation de gratuité et d'amour.
Parce que Dieu n'en a pas besoin, d'une certaine manière, de
mettre gratuité. Je ne vais pas vers Dieu pour ce que je peux en recevoir. Tu comprends ? Un amoureux, il est follement amoureux de la fille qu'il aime, mais quelque part, il y a une gratuité. Ce n'est pas juste pour lui, pour ce qu'il peut en ressentir. La louange, je crois que c'est très important. Et ça a été une des grandes redécouvertes dans l'Église, avec ce qu'on appelait le renouveau charismatique, qui fête ses 50 ans cette année dans le monde entier. C'est qu'on avait un peu oublié cet aspect de louange gratuite, avec les chants, ces chants magnifiques. Il faut beaucoup chanter dans la prière, surtout si on est à plusieurs, bien sûr. Et ça va de pair aussi avec l'action de grâce. Remercier le Seigneur. Vous rappelez l'histoire dans l'Évangile, les 10 lépreux qui sont guéris, il y en a un seul qui a la délicatesse de venir remercier Jésus. Et Jésus n'est pas du tout indifférent, il a un cœur humain comme le nôtre, et pose la question, mais où sont les autres ? Comme si ça lui manquait. Voilà. Et je crois que c'est très important. Et on peut aussi remercier le Seigneur d'avance. Merci d'avance pour les surprises que tu me prépares, pour ce que tu veux me donner. Je te remercie d'avance. Comme un enfant qui va dire à son papa avant Noël, eh ben, merci d'avance pour les petits cadeaux que tu me feras à Noël. Je ne sais pas ce que ce sera, mais de toute façon, je serai content. Merci, merci. Je crois que le merci est extrêmement important. Voilà. Et même dans la vie courante, dans la vie sociale, les gens qui ne savent plus dire merci, ce n'est plus des êtres humains. Vous voyez ? Et puis il y a effectivement l'intercession tellement importante, c'est que tu as ce pouvoir sur le cœur de Dieu de prier pour les autres, que ce soit une personne, un pays, que ce soit une intention, prier pour l'unité des chrétiens, pour la paix dans le monde, pour la paix sociale dans un pays au bord de la guerre civile, je ne sais pas quoi, intercéder. Voilà. Dans la Bible, nous avons un super exemple, avec bien sûr le Seigneur Jésus, passant si souvent dans la nuit en prière, intercédant pour son peuple. Mais nous avons Moïse, n'est-ce pas, les bras en croix sur le sommet de la montagne, qui supplie le Seigneur de pardonner à son peuple, et quand il est sur la montagne, il laisse son peuple tourner vers Dieu, et quand il redescend de la montagne, il est du côté de Dieu, tourné vers son peuple. Voilà. Là-haut, il porte tout son peuple en lui, dans les moments de prière, qu'on y pense ou non, je porte tout ce petit peuple qui habite mon cœur, tout ce qu'il confie à mon amour, qu'il confie à ma vie, ma propre famille, mes amis, mes camarades d'école, ceux à qui je travaille, etc. Nous avons tous un petit peuple dans notre cœur. Et quand moi je prie, je suis comme le petit ambassadeur, le petit délégué de tous ceux de ma petite famille dont je viens de parler, qui peut-être ne prie pas, mais je prie en leur nom, je prie pour eux, et le Seigneur est touché à travers ma voix, il entend leur voix. Voilà, ça c'est tellement beau, voilà, cette intercession qui a une puissance extraordinaire, surtout l'intercession des enfants et des souffrants.
Alors, Père Daniel, avant que vous alliez un petit peu plus loin, vous inquiétez, vous pourrez parler du dernier point.
Oui.
Une autre question qui prolonge un peu la première que je vous ai faite dans cette deuxième partie d'émission sur les réserves, c'est que parfois on peut se dire, est-ce que Dieu entend nos prières ?
Très bonne question.
Comment, quand on commence une vie de prière, est-ce que Dieu, d'une certaine manière, donne des grâces particulières qui nous aident à comprendre qu'en effet, il entend nos prières et que du coup, c'est un dialogue, on va dire, dans les deux sens. Alors, à vous entendre, en fait, la manière dont on peut toucher du doigt la réponse de Dieu, c'est en fait la joie que ça nous procure, c'est cette dilatation de l'âme que vous décrivez.
Oui, oui, oui.
Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres, comment dire, est-ce que Dieu accorde d'autres grâces à ceux qui se lancent dans la prière pour toucher du doigt le fait que Dieu entend nos prières?
Alors, c'est une très bonne question, c'est celle qui revient un peu tout le temps d'ailleurs. De toute manière, Dieu écoute, il ne peut que écouter, c'est nous qui ne l'écoutons pas, mais en sens inverse, c'est jamais vrai. Dieu écoute toujours. De même, on parle toujours du silence de Dieu, mais c'est notre silence, à nous qui ne prions pas, qui nous nous taisons. Et on peut, tous les cris que nous lançons vers le Seigneur, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, pourquoi cette horreur, etc. Pourquoi es-tu si loin, pourquoi tu nous abandonnes, pourquoi tu nous oublies. Et le Seigneur nous les renvoie, mais pourquoi toi, homme, enfin être humain, pourquoi tu m'oublies, pourquoi tu m'abandonnes, pourquoi tu ne viens jamais à moi, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas, je te parle dans les Écritures, je te parle par l'Église, et tu ne m'écoutes jamais, vous voyez. Le Seigneur peut reprendre mot à mot les cris que nous lui lançons, voilà. Parce que quand on dit que Dieu se tait, mais il ne cesse de parler à travers sa création, à travers son Église, à travers la parole de Dieu, à travers toutes les inspirations intérieures que le Saint-Esprit peut nous inspirer, à travers notre conscience, la voix de notre conscience. Il nous parle beaucoup, beaucoup, mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. Alors effectivement,
on peut mais est-ce dire, qu'il y a des grâces, on va dire, attachées voilà. Au début de la vie de prière oui. où Dieu enfin, fait comme des cadeaux en fait, pour encourager en fait, celui
alors,
qui se lance.
Il y a toujours des grâces, mais ce n'est pas forcément des grâces sensibles qui retombent. Voilà, je ne vais pas forcément éclater en larmes d'émotion parce que je sens que la main du Père est en train de me faire une petite caresse sur la tête ou je ne sais pas quoi. Ça peut arriver, des grâces sensibles comme ça, surtout au début. Mais pour que notre relation à lui soit une relation de pleine confiance dans la foi, eh bien souvent, il ne nous fait pas ressentir, comme pour Jésus sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est à ce moment-là dans le cœur de tous ceux qui se sentent abandonnés de Dieu. Il épouse leur pourquoi. Tu sais pourquoi que nous crions tout le temps devant toutes les horreurs que nous voyons. Jésus s'est laissé traverser le cœur et les lèvres par tous nos pourquoi. De même, toutes nos larmes ont traversé d'abord les larmes de Jésus. Il a sangloté sur son ami Lazare, mort avec Marthe et Marie. Il a sangloté sur mon des Oliviers pour ce peuple qui refuse de reconnaître le prince de la paix et qui fait la guerre. Il a sangloté des larmes de sang à Gethsemane devant le péché qui est responsable de 90% du mal et de la souffrance dans le monde. Il a pleuré. Donc tous nos pourquoi, toutes nos larmes, ont été sanctifiés par Jésus. Il les a épousés, voilà. Et donc, ça veut dire que quand apparemment, il ne nous exauce pas, par exemple, je demande telle grâce, ou telle, je demande de réussir mon bac, voilà.
Parfois, c'est des choses plus...
Et puis je ne réussis pas.
Parfois, on demande des choses plus profondes et légitimes.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Avoir un enfant,
oui, mais tout à fait,
la guérison d'une mère de famille qui est malade.
Bien sûr. Alors là, quelquefois, effectivement, il ne nous exauce pas, tel qu'on l'aurait aimé, imaginé, mais il va nous exaucer quelquefois d'une autre manière et nous donner de vivre quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui va vraiment être pour notre bien. Et c'est lui qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et en même temps, il aime qu'on lui demande des choses. La prière du Notre Père, les trois premières invocations, enfin ce n'est pas des invocations, sont gratuites, que ton règne vienne et tout ça. Et ensuite, vraiment, des choses concrètes, le pain de chaque jour, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin tous les jours pour vivre. Il aime qu'on le lui demande, voilà. Mais il peut nous exaucer différemment, ça c'est et nous accueillons d'avance ce qu'il voudra pour nous.
Alors, avant qu'on oui. fasse une deuxième pause musicale, Père Daniel Ange, oui. j'avais une dernière question, et peut-être que ça vous permettra de parler du dernier point que vous vouliez aborder.
Oui.
À vous entendre, en fait, il faudrait presque en fait, un préalable, quelque part. Il faudrait presque avoir rencontré Dieu, avoir la certitude de foi que Dieu existe, qu'il est vivant, que Jésus est ressuscité, pour se lancer dans la prière. Est-ce qu'on peut se lancer, même si on n'a pas cette certitude, même si on n'a pas cette foi? Et est-ce que petit à petit, est-ce que tout d'un coup, à un moment, je ne sais pas, il y a une étape dans la prière où Dieu donne cette grâce, ou est-ce que ça peut se faire en fait au fil de l'eau, et puis un jour on se retourne et puis on se dit, en fait, aïe, je crois. Voilà, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui sont peut-être intimidés par la grande foi que vous avez, votre grande expérience?
Alors là, moi, je crois qu'il faut lancer le cri tout simple de Charles de Foucault, dont nous fêtons le centenaire cette année. Seigneur, si tu existes vraiment, eh bien, donne-moi de te rencontrer, donne-moi de croire. Voilà. Et on peut faire le pari. Je vais essayer de vivre et de prier, de parler à Jésus comme si vraiment il existait. Vous voyez, si j'en doute. Et c'est là où je vais faire l'expérience de son existence. Paul Claudel à Notre-Dame de Paris.
Mais lui, il n'avait pas posé de questions, si je peux me permettre.
Le jour de Noël, eh ben c'est le coup de foudre en entendant ces beaux chants de Noël. Tout à coup, la perception évidente, fulgurante, comme un éclair, que Dieu est un enfant. De l'innocence éternelle de Dieu. Il est complètement bouleversé. Lui qui était un drogué, qui prenait des chemins de traverse qui auraient pu le perdre quelque part, ça a été vraiment sa bouée de sauvetage. Et il venait là plutôt pour se moquer des cérémonies chrétiennes, etc. Pas pour s'en moquer, mais enfin, un petit curieux, voilà. Et le Seigneur l'a attrapé. Et nous pouvons toujours désirer et nous préparer à une sorte de rencontre imprévue, inattendue, avec le Seigneur.
Voilà. Donc crier vers Dieu, mais aussi peut-être commencer une vie de prière en disant qu'au fil de l'eau,
oui.
Dieu va se révéler. Est-ce que c'est possible?
Oui, tout à fait, bien sûr.
Il y a deux méthodes, entre guillemets, la méthode un peu radicale, la méthode...
Et de prier, c'est souvent crier. Il ne faut pas avoir peur de crier vers Dieu, entre autres, tous nos pourquoi, comme je viens de le dire. Et il y a une chose très belle pour Jésus, c'est qu'au Jardin des Oliviers, il dit « Abba, petit papa chéri », qu'il nous transmet à ce moment-là, puisque c'est la première fois que les apôtres l'ont entendu livrer son petit secret d'amour. Abba, c'était le nom très familier des petits-enfants envers leur papa. Et jamais les Juifs n'auraient osé employer ce mot trop familier. Et quand quelques heures après, sur la croix, il ne peut plus que dire « Mon Dieu », c'est parce qu'il descend dans l'âme de tous ceux qui ne peuvent crier que « Mon Dieu », qui sont incapables de dire à Dieu « Papa », parce que peut-être ils ont trop souffert, leur propre papa, n'ont jamais eu une vraie vision de la paternité humaine, donc ils ne peuvent pas dire « Papa ». Et après avoir crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», de nouveau, après s'être senti abandonné, il s'abandonne comme un enfant. « Père, je me remets dans tes mains. » Un petit enfant qui sont... Et donc, il est passé de ce sorte de crise de désespoir, si on peut dire comme cela, où il ne ressent plus le Seigneur. Il retrouve son Père. Pourquoi? Parce qu'il voit à côté de lui, tout contre lui, chair contre chair, sa maman. Il voit Marie. Et Marie peut lui dire « Mon petit ». Non, 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 le Père ne t'abandonne pas. La preuve, c'est que moi, ta mère, je ne t'abandonne pas. Je serai là jusqu'au bout. Et après avoir dit le mot « mère », Jésus prononce le mot « mère », tout de suite, il peut de nouveau dire « Père », comme si Marie le rendait à son Père, comme si Marie était le sacrement, le signe visible de l'invisible présence du Père. Et je pense que Marie est une personne qui peut beaucoup, beaucoup nous aider à cette intimité amoureuse avec Jésus. Voilà, c'est mon expérience personnelle. Et je l'invoque souvent au début de chaque temps de prière. Voilà.
Alors, on fait une deuxième pause musicale, je vous propose. Et puis, après, on prolongera ça. Et entre autres, vous nous parlerez donc de la prière du rosaire. Merci beaucoup, en tout cas, Père Daniel Ange. Je rappelle que nous sommes donc à Pratelon, donc le diocèse d'Albi, dans les monts de la Caune. C'est ça, hein ? J'hésite toujours, dans les monts de la Caune, donc à l'école Jeunesse Lumière, avec vous, Père Daniel Ange, qui est le fondateur donc, de cette école, ancien moine et ermite. Merci.
Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, donc depuis Pratelon, donc à l'école Jeunesse Lumière avec le père Daniel Ange. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que le père Daniel Ange est entre autres, puisqu'il a eu une vie avant, où il était moine et ermite, et aujourd'hui il est donc le fondateur de l'école Jeunesse Lumière, qui est donc une école d'évangélisation en France, mais une école internationale qui accueille des jeunes chaque année, qui veulent se plonger dans la vie chrétienne, la vivre à plein le temps d'une année. Et nous sommes avec le père Daniel Ange à l'occasion de ce carême pour une série d'émissions, dont la première est donc ce matin, en ce jour de mercredi décembre, première émission sur la prière. Alors si je dois résumer à gros traits ce qu'on a vu dans ces deux premières parties, la première partie, vous nous avez pris cette image du paysage, excusez-moi, je la rappelle, mais peut-être que certains auditeurs ne nous prennent que maintenant. Vous disiez en fait, la vie sans la prière, c'est comme un paysage d'automne dans le brouillard où j'ai froid, où j'ai peur, etc. Et on peut imaginer, espérer, rêver qu'avec une vie de prière, on soit toujours dans le même paysage, seulement c'est le grand beau temps et on entend les oiseaux chanter. Je fais très court, évidemment. Vous nous avez dit ensuite dans cette deuxième partie, vous avez répondu en fait aux grands obstacles qui peuvent venir à l'esprit quand on a envie de se lancer dans cette vie de prière. Le fait que Dieu va nous demander des choses impossibles, donc avoir inutilement peur de lui, ou alors le fait qu'il ne nous écoute pas ou qu'il ne nous entende pas. Est-ce que vous diriez, Père Daniel Ange, que, alors partons du principe que nos auditeurs sont convaincus qu'il est bénéfique de se lancer dans une vie de prière, et parlons à tous ceux qui se sont déjà un peu lancés. Est-ce que on peut tous, en fait, avoir une relation vivante avec le Christ par cette vie de prière un jour, ou est-ce que c'est pareil, c'est réservé à des grands spirituels comme le père Daniel Ange ?
Je suis pas un grand spirituel, je suis un petit enfant de Dieu. Et je pense que le cœur d'enfant, tout simple, confiant, donc joyeux, c'est un des beaux fruits de la prière. En priant, on reçoit ce cœur d'enfant qui est une condition pour entrer dans le royaume. Là, une des paroles les plus fortes de Jésus, c'est dit, celui qui ne vient pas comme petit enfant n'entrera pas. Il ne dit pas, ce sera difficile, un peu compliqué, ça prendra du temps. Il dit, il n'entrera pas. Parce que le royaume, c'est un enfant, Dieu éternellement, petit enfant. Et donc, la prière est un chemin, justement, où nous devons, petit enfant, où nous apprenons à nous abandonner, même dans les nuits, ou même quand on peut être assailli de doutes, quand on a l'impression, justement, comme Jésus sur la croix, d'être abandonné par lui. C'est ces nuits qu'on traversait des rangs saints, comme Mère Teresa pendant 50 ans, la petite Thérèse de Lisieux pendant un an et demi, parce que elle faisait intérieurement l'expérience de l'amertume qu'il y a à vivre sans Dieu ou loin de Dieu ou ayant renié Jésus. Voilà.
Alors là, vous parlez tout de suite de la grande mystique qui est la nuit de la foi.
Oui, voilà,
avant,
la nuit de la foi.
Avant
voilà.
Qu'on y vienne, juste, est-ce que tous, par la prière, oui. On peut avoir une relation vivante avec le Christ ressuscité ?
Oui,
est-ce qu'à
oui,
un moment, ça vient ?
Évidemment. Mais pour certains, il permet ces nuits de la foi, comme la petite Thérèse, qui offre justement cette nuit pour qu'une multitude puisse trouver le chemin de la lumière, pour puisse ouvrir les yeux. Voilà, elle accepte d'être dans la nuit pour transmettre aux autres la lumière. Ça me semble bouleversant. Et c'est pour ça, c'est quand elle est au fond de cette épreuve qu'elle a cette violence, cette sorte de passion missionnaire d'annoncer Jésus par toute la terre, à tous les temps, jusqu'aux martyrs, dans les îles les plus lointaines, elle ne tient plus en place, etc. Parce que comme elle fait l'expérience de la tristesse profonde qu'il y a à vivre sans Dieu, elle veut apporter Dieu à tous, toujours et partout. Ça, c'est la petite Thérèse.
Alors juste, voilà. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on voit toujours l'objectif. Mais allons étape par étape, si vous permettez. Donc en tout cas, vous nous dites que si on a une vie de prière, la foi, en fait, la confiance en Dieu grandit. Vous prenez l'image de cet enfant qui se jette à l'occasion d'un incendie, en fait, dans les bras de son père, et que petit à petit, soit c'est de manière fulgurante, à la Claudel, comme vous le disiez en deuxième partie, soit petit à petit, en fait, une foi profonde, réelle en Dieu, une confiance en Jésus, en un Dieu vivant, va s'installer. Est-ce que, avant d'arriver à ces extrêmes de la petite Thérèse de Lisieux, peut-être qu'on y reviendra à la fin, à quoi il faut s'attendre, en fait ? Est-ce qu'il y a des grandes étapes, j'ai envie de dire, qui ont été décrites par des grands spirituels, grandes étapes de la vie de prière, et qu'il ne faut pas s'effrayer quand on est dans cette étape-là ? Quelles sont-elles, si vous deviez peut-être les résumer à gros traits ?
Oui, moi je crois que les étapes, je dirais, c'est comme dans la vie entre amoureux ou dans le mariage, forcément, il y a comme des saisons différentes, des temps de printemps, des temps d'été, d'hiver, et tout ça. Et ça dépend beaucoup de chaque personne. Je ne crois pas qu'il y ait des étapes qui soient valables pour tous.
On entend souvent parler de Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, qui ont décrit...
Oui, petite Thérèse ne se sentait pas très à l'aise avec toute l'histoire des demeures en Thérèse d'Avila. Ce n'était pas son truc. Et elle l'avoue, elle était beaucoup plus simple. Elle trouvait ça un petit peu compliqué. Vous voyez, alors, ça ne touche rien à cette grande théologie des demeures. Hein. C'est admirable. Mais disons, Thérèse ne se sentait pas de ce côté-là. Elle a une relation beaucoup plus simple avec le Seigneur. Elle ne cherche pas à savoir dans quelle demeure elle se trouve, etc. etc. Ça ne la préoccupe pas du tout.
Là. Non, mais parfois, ça aide à comprendre ce qu'on vit.
Oui, et oui, effectivement, ça peut aider à comprendre ce qu'on vit. Oui, mais c'est là où il faut lire ces grands auteurs-là. Mais ça vient plus tard, je crois. C'est déjà pour ceux qui sont avancés.
Mais alors, il y en a quelques-uns qui nous écoutent qui sont assez avancés. Alors, du coup.
Oui, mais je me sens tout petit devant eux. Moi, je n'ai rien à leur dire. Moi, je suis encore un tout petit enfant dans la prière.
En tout cas, est-ce qu'il faut s'habituer, en fait, dans la vie de prière, à avoir toutes ces saisons, c'est-à-dire à avoir printemps, été, automne, hiver.
Il y a des saisons.
C'est tout le temps comme ça, en fait, la vie de prière. C'est-à-dire, on avance
oui, un peu.
Dans l'hiver, et puis un jour, il y a le printemps qui arrive.
Voilà. Moi, je vis comme ça, sans forcément me retrouver dans des catégories. Vous voyez. Alors, il y a une petite prière que tout de même il faut connaître, c'est ce qu'on appelle le rosaire, qui est une vraie école de prière. Nous fêtons les 100 ans de Fatima, je reviens du pèlerinage Jeunesse Lumière à Fatima. C'est impressionnant de voir cette insistance de la Mère de Dieu sur la prière, spécialement pour la paix, la prière du rosaire. Alors au début, moi ça m'embêtait beaucoup cette prière, c'était trop long, trop compliqué.
Rappelez ce que c'est peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la prière du rosaire, c'est donc réciter des « Je vous salue Marie », c'est ça?
Oui, c'est ça, voilà, un peu monotone, je m'endormais dessus. Et depuis que je pratique ce que Jean-Paul II a beaucoup encouragé, dans son admirable lettre sur le rosaire, de mettre les petites clausules. C'est comme les rosaires. Le rosaire, c'est suivre Jésus avec Marie à travers les différents événements de sa vie. Il y a 20 différents moments importants de sa vie. C'est de mettre une petite phrase, deux ou trois mots, comme on fait en Pologne depuis des siècles ou en Irlande, pour préciser ce mystère. Par exemple, Jésus baptisé au Jourdain, on dit « Jésus, ton enfant, baptisé au Jourdain ». Pour Noël, « Jésus, ton enfant, que les bergers viennent adorer ».« Jésus, ton enfant, transfiguré sur le Tabor ».« Jésus, ton enfant », etc. Et comme ça, tu prononces, tu articules, ça ne reste pas au niveau de la pensée, vous voyez ce que je veux dire. Et ça aide à accrocher notre pensée à ce mystère. En plus, ce qui est encore mieux, ça peut être la même clausule pour les 10 AV, mais ça peut être chaque AV une différente clausule. Nous faisons beaucoup ça à GL et ça rend très vivant. Donc une cinquantaine de petites phrases comme cela, toutes simples, toutes belles. Jésus, ton enfant, pour qui brille l'étoile des rois mages. Jésus, ton enfant, que tu offres dans le temple, etc. Voilà. Et ça aide beaucoup, beaucoup. Ça le rend très, très vivant. Et on revit l'évangile en l'espace de trois quarts d'heure, mais avec Marie. Et là, l'efficacité, c'est impressionnant. Parce qu'on
alors, dites-nous un mot d'efficacité. Vous me disiez pendant la pause qu'on a des preuves de l'efficacité du rosaire.
C'est impressionnant.
Mais alors, là, dites-nous, partagez-nous.
Mais là, il faut tout en...
Il nous reste quand même quelques minutes. Donc, il faut entière, on refera d'autres émissions, rassurez-vous.
Mais c'est impressionnant tout ce que le rosaire a obtenu pour l'écroulement du totalisme idéologique du communisme en Europe de l'Est.
C'est-à-dire
incroyable.
C'est-à-dire,
je n'ai pas le temps de développer. Les étapes de cette libération spirituelle de l'idéologie totalitaire communiste, c'est toutes les dates de Marie, entre autres, toutes les 13 mai, 13 septembre, 13 août, etc. J'ai mis un résumé de ça dans mon petit livre sur le rosaire. On n'a pas le temps de développer tout ça. Il faudrait toute une heure sur Fatima. Mais donc, on voit l'efficacité vraiment de la prière. Alors, je voudrais achever par une chose très, très importante, c'est la prière du couple et la prière en famille. Prière en famille. On peut même statistiquement montrer comment dans les familles qui prient, il y a beaucoup, beaucoup moins de séparation, de divorce que ceux qui ne prient pas. Parce que c'est la prière, que ce soit en couple, en famille, qui va permettre, entre autres, le pardon mutuel et la réconciliation. Je vais raconter une histoire qui est arrivée à une de nos filles de Jeunesse Lumière, qui nous l'a racontée. Donc, quand elle avait 12 ans, ses parents étaient sur le point de se séparer. Et chaque soir, les trois enfants se réunissaient dans leurs chambres respectives, enfin ensemble les trois, pour supplier le Seigneur qu'ils restent ensemble. Et chaque jour, ils invitaient leurs parents à venir à leur prière le soir. Puis un jour, ils ont eu marre d'être tout le temps invités et sont venus. Ils ont été d'abord bouleversés de voir la beauté du visage de leurs enfants en train de prier. Quelquefois, les yeux fermés ou les yeux fixés sur une petite icône, une petite image de Marie, la beauté de l'enfant en prière. C'est vrai que c'est une chose, moi, ça me bouleverse chaque fois. De voir des enfants en profonde prière, c'est déjà le ciel, on croit voir des anges. Et à la fin de leur prière du soir, voilà Béatrice qui dit: Roberto, j'ai volé ton bic ce matin, tu l'as cherché toute la journée, vraiment je te demande pardon, etc. Sylvie qui demande à Béatrice.
Donc ça, c'est les enfants.
Oui, les enfants.
Qui se demandent pardon.
Voilà, j'ai claqué la porte au nez ce matin, j'étais impatient. Les enfants qui se pardonnent entre eux et se font une petite croix sur le front, petite bénédiction. La bénédiction des baptisés. Et à la fin, Béatrice qui dit: Papa, maman, à votre tour. Et les voilà qui éclatent en sanglots. À votre tour, ça veut dire maintenant à vous de vous pardonner entre eux. Alors ils s'enferment dans leur chambre. Toute la nuit, on fait la lumière sur tous les quiproquos, les malentendus, tout ce qui s'était accumulé depuis 4 ans, où jamais ils ne s'étaient demandé pardon. Et donc, c'est comme une égratignure. C'est pas grave de s'égratigner avec des ronces dans une forêt. Mais ce qui est grave, c'est si tu ne désinfectes pas. Parce que du coup, cette petite blessure de rien du tout peut s'envenimer et devenir un abcès, et après il faut la chirurgie, etc. Et c'est comme ça qu'un pardon toujours remis, qu'on ne fait pas, ça devient un abcès, quelquefois en partant d'une toute petite chose vraiment anodine. Et donc, ils font de la lumière, surtout le matin. Ils téléphonent à leurs avocats pour annuler le procès, partent en nouveau voyage de noces comme deux amoureux, confient les 3 enfants à une tante. Et au retour, Béatrice qui dit: voilà, papa, maman, nous avons pris 2 décisions. Ils auraient pu dire nous et le Saint-Esprit. Nous avons pris 2. La première, chaque mardi soir, ce sera votre soirée couple. On vous prépare le repas, vous êtes dans votre chambre, vous vous aimez, vous tchatchez, tout ce que vous voulez. Papa, pas de sortie, pas de télé, pas de net, pas d'invité. Et le jeudi soir, ce sera notre soirée famille. Pas de sortie, pas d'invité, pas de télé et pas de net, etc. Voilà, on est entre nous. Et voilà comment ces 3 enfants ont sauvé leur famille.
Histoire vraie.
Comment? Simplement en priant.
Histoire vraie, Père Danélange. C'est une histoire vraie.
Ah mais comment? Ben je ne raconterai pas. C'est trop facile d'inventer des belles histoires. Non, c'est une histoire absolument vraie. Je connais toute la famille. Les parents sont toujours ensemble. Donc, c'est pour vous dire l'importance de cette prière en famille, qui unit les familles. Voilà. C'est le curé d'Ars qui disait: c'est une grave injustice pour le monde entier que de ne pas faire prier les enfants. Parce que les enfants ont une puissance de prière sur le cœur de Dieu inimaginable. Parce que le Père voit en chaque enfant son petit bébé de Bethléem. Et il est bouleversé par la prière d'un enfant. Un enfant obtient des guérisons qu'un adulte ne va pas obtenir. Il ne faut pas hésiter à faire prier les enfants autour d'un malade pour sa guérison. Les enfants obtiennent des choses que nous, adultes, on n'obtient pas. Et donc, c'est une grave injustice, comme dit le curé d'Ars, de ne pas faire appel et de ne pas éveiller la prière des petits-enfants pour la paix du monde. Si tant de choses vont mal dans le monde, je suis sûr que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'enfants qui prient. Il faut faire prendre conscience de l'incroyable puissance de leur prière. Ils sont plus puissants que les exarques de l'ONU ou du Conseil de sécurité. Ils sont plus puissants que le président de Russie ou des États-Unis. Bien plus puissants. Pour la paix du monde, justement.
Eh ben, merci beaucoup, Père Danélange, en tout cas, pour cette première émission en direct de Pratelon, dans cette chapelle orientale, à l'école Jeunesse Lumière. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, je le redis une dernière
fois. Et merci aux anges qui étaient avec nous, voilà. Nos anges gardiens qui sont nos maîtres en prière.
Voilà, et puis nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une deuxième émission sur le jeûne. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.